Il est 17h48, c'est l'heure du face à Duhamel. Avec ce soir Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir les garçons, bonsoir Alain.
Bonsoir Alain, on va évoquer bonsoir. La situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et écoutez, avec l'état d'urgence qui est instauré, écoutez le chef du gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal, aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Depuis le début de la semaine, la Nouvelle-Calédonie est frappée par des violences d'une gravité rare. Des violences qui ont provoqué des dégâts majeurs, blessé plusieurs centaines de personnes, blessé des dizaines de policiers et de gendarmes. Et ces dernières heures, ajoutant au drame, plusieurs personnes sont décédées lors de ces violences. Je veux avoir une pensée pour elles. Une pensée pour les Calédoniens qui veulent le retour au calme. Alors je veux le dire à nouveau devant vous, comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, aucune violence n'est jamais justifiable ou tolérable. Aucune violence ne peut jamais être acceptée. Et je le redis, aucune violence ne sera jamais tolérée.
D'où l'état d'urgence instauré dans l'île. Justement, si vous le permettez, avant de débattre, on va écouter un habitant de Nouvelle-Calédonie qui est en direct avec nous. C'est le milieu de la nuit. Merci Philippe Vadet d'être sorti de votre sommeil pour prendre quelques minutes pour BFM TV. Est-ce que vous êtes très inquiet depuis de la situation, de la manière dont elle évolue au fil des heures ?
Alors écoutez, je vous avoue que depuis 36 heures, c'est une situation qui est extrêmement anxiogène. Pas plus tard que ce matin, il y avait encore des affrontements sérieux, pas très loin de chez moi, dans tous les quartiers. Inévitablement, les gens se sont constitués en milices pour aider les forces de l'ordre qui, malgré tous leurs efforts, étaient en nombre insuffisant. Donc oui, effectivement, on a beaucoup craint pour nos vies et nos biens.
Mais Philippe Vadet, vous parlez de milices, comment s'organisent-elles ?
Alors, les milices s'organisent dans les différents quartiers, c'est-à-dire que c'est un groupement de personnes, de civils, qui ont monté des barrages pour éviter que tous ces délinquants qui arrivent par horde viennent piller les maisons, les brûler et brûler les commerces, etc. Voilà, c'est pour les contenir.
Mais là, vous êtes armé ?
Ah non, absolument pas, non.
Et comment vous défendez alors ? Avec quoi ?
On se défend comme on est attaqué, c'est-à-dire en renvoyant des jets de pierre, éventuellement avec de l'intimidation, avec des battes de baseball ou des barres de fer pour intimider les agresseurs.
Mais attendez, je comprends pas, parce qu'on était plutôt au départ dans une revendication politique. Pourquoi ça dégénère en émeute ? Et à qui avez-vous en face de vous, alors ?
Alors, en face de nous, on a des gens, des jeunes gens qui ont malheureusement, je pense, été commandités par la cellule de coordination et d'action de terrain qui est le bras armé du FLNKS. Pourquoi est-ce que ça a dégénéré comme ça ? Je vous avoue que on leur a peut-être dit que c'était un peu le Disneyland et qu'il fallait tout brûler, tout brûler, tout piller, tout casser. Je sais pas. Je saurais pas trop vous dire ce qui a fait que ça a dégénéré comme ça en fait.
Mais ce que je comprends pas, c'est les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses, elles sont dépassées ?
Totalement.
Et vous entendez les tirs régulièrement aussi ? Parce qu'on parle des meutiers qui tirent à balles réelles aussi.
Alors oui, effectivement, il y a eu des tirs à balles réelles, mais enfin ça, c'était plutôt dans le Grand Nouméa. Moi, je suis vraiment Nouméa Centre. Là, pour l'instant, cette nuit, je vous avoue que j'ai l'impression que ça s'est quand même pas mal calmé. Mais jusque dans le milieu de la journée d'hier, c'était quand même très intense.
Vous envisagez si la situation continue, de quitter l'archipel et de revenir en métropole ou pas du tout ?
Écoutez, moi, ça fait 37 ans que je suis dans ce pays, 37 ans que j'aime ce pays. Mon fils y est né J'y ai fait toute ma carrière professionnelle. J'ai des biens ici. Il est hors de question que j'abandonne ce pays, je dirais lâchement.
Merci Philippe Vadé. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps au milieu de la nuit, puisque je rappelle que il y a plus 9h, il est quasiment 3h du matin là-bas à Nouméa. Oui. Merci Philippe Vadé. Donc on est dans une situation insurrectionnelle. On plonge, la Nouvelle-Calédonie replonge dans le chaos.
En tout cas, c'est visible. C'est une situation qui est extraordinairement périlleuse avec des forces de l'ordre qui, quand les violences ont commencé, étaient en nombre notoirement insuffisant.
Un gendarme a été tué.
Oui, et surtout, il y avait tout simplement pas assez de gendarmes, pas assez de CRS. Il y en avait moitié moins que la dernière fois qu'il y avait eu des événements de ce genre au moment où ça a commencé.
Un défaut d'anticipation.
Alors, il y a sûrement eu un défaut d'anticipation. En réalité, aujourd'hui, c'est une journée vraiment charnière parce qu'on passe d'une logique à une autre. La logique d'hier, c'était le vote d'une loi constitutionnelle à la majorité selon les rites, j'allais dire métropolitains. Bon, aujourd'hui, il y a état d'urgence, conseil de défense, conseil des ministres, reprise en main par Matignon. Mais ce qui est très important, invitation de toutes les parties à venir à Paris pour discuter en prenant le temps et avec l'idée que on suspend la date du congrès, donc rien de définitif, et on essaye de revenir à la seule chose qui ait jamais marché avec la Nouvelle-Calédonie, de façon toujours très difficile, mais qui est la seule technique qui ait jamais marché, qui n'est pas une technique majoritaire à la métropolitaine, mais une technique de consensus laborieux qui demande des semaines et des semaines, qui est épuisante, mais qui, au bout du compte, arrive à des avancées ou en tout cas à des stabilisations. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il parle beaucoup à Matignon et puis qu'ensuite, il y ait, comme d'habitude, une médiation qui soit envoyée, qui soit une médiation bipartisane pour qu'on ne dise pas que c'est gouvernement contre opposition, quelque chose comme, par exemple, Lionel Jospin et Édouard Philippe. Vous voyez, quelque chose de ce genre.
Le nom de Lionel Jospin a été mentionné. Hein.
Oui, mais celui
d'Edouard. Une bonne idée?
Mais oui, enfin, ce genre, ça a déjà été fait et ça a déjà marché. Mais alors, ensuite, bon courage pour eux, ils y sont pour des semaines.
Et la question, c'est vrai, est-ce qu'on n'a pas pu s'éviter tout ça, en fait? Parce que moi, j'entends quand même des spécialistes dire qu'il y a eu des alertes. J'entends l'ancien conseiller de Michel Rocard dit on avait prévenu l'exécutif depuis plusieurs semaines de ce qui allait se passer. La guerre civile qui se dessine n'est pas réjouissante.
Oui, je ne sais pas si d'ailleurs ce sera suffisant, parce qu'on voit bien que la situation échappe, et je ne sais pas si une médiation fut-elle de la qualité des chapeaux à plumes que nous venons d'évoquer.
Mais à l'arrivée, hein, la médiation,
voilà,
au départ.
Peut régler la question, parce qu'on a bien vu que les organisateurs indépendantistes, on pense au président du gouvernement, Louis Mapou, au président du Sénat coutumier, Victor Gogny, sont en train de rétro-pédaler. Ils sont partis d'une contestation politique des modes de scrutin, et là, ils ont des émeutes de rue et ils sont en train d'en appeler à la responsabilité, ils sont en train d'essayer d'éteindre le feu.
Ils
se rendent compte qu'ils ont aussi un peu joué les apprentis sorciers, parce qu'il y a un mal fou à se fournir en denrées alimentaires, les pharmacies sont attaquées. Là, ce ne sont plus des opposants politiques, ce sont des hordes de voyous, et dont on peut se demander d'ailleurs qui les manipule. On sait, par exemple, lors des émeutes d'avant 88, qu'on avait accusé l'Australie de manipuler un certain nombre d'émeutiers. Là, on pense qu'il y a peut-être la main de la Chine derrière les émeutes.
De l'Azerbaïdjan, qui d'ailleurs...
Vous avez raison,
qui d'ailleurs le reconnaît publiquement.
Oui. Et donc, parce qu'il y a derrière tout ça, il ne faut pas se leurrer, il y a l'enjeu du nickel. Il y a l'enjeu des batteries pour lesquelles le nickel est absolument indispensable. Et il y a plusieurs niveaux à voir. L'enjeu politique, l'enjeu d'émeutes de style banlieue qu'on a connu, et un enjeu économique et de prise de pouvoir sur la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça, c'est très difficile
à
gérer.
Mais en charge de ce dossier au sein du gouvernement, en fait.
C'est le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer.
Et Madame Guévenoux.
Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée de l'Outre-mer.
Oui, non, mais enfin, ça dépend de Gérard Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et qui a quand même été 7 fois en Nouvelle-Calédonie depuis qu'il est ministre de l'Intérieur pour essayer de trouver des solutions. Oui, c'est inédit. Mais en revanche, c'est visiblement pas la méthode qui a marché quand même. Hein. Mais je trouve qu'il faut insister sur une dimension. Évidemment, aujourd'hui, on est d'abord, on regarde si les violences baissent parce que c'est quand même la priorité absolue. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte que ça n'est pas une crise, c'est 3 crises en même temps. C'est-à-dire que c'est une crise politique avec un énorme problème qui est que les Kanaks sont en fait potentiellement minoritaires en termes de suffrage et qu'ils ont peur qu'on élargisse le corps électoral comme ce serait légitime.
Elle était indispensable cette réforme, pardon. Hein.
Attendez, j'ai pas fini.
Je dirais les choses aussi là-dessus.
Premièrement, il y a une dimension donc politique, le corps électoral, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a quand même 1/5 du corps électoral qui est d'origine non kanak et qui, pour l'instant, n'a pas tout simplement le droit de voter, ce qui est quand même une aberration. Bon, deuxièmement, il y a une crise économique gravissime parce que le nickel aujourd'hui, c'est les cours du nickel s'effondrent.
Les trois usines de transformation qui emploient
beaucoup de monde, hein, qui sont la force traditionnelle de la Nouvelle-Calédonie, sont toutes les trois au bord de la faillite. Et donc, la situation économique est épouvantable. Et derrière ça, il y a une situation sociale affreuse qui est traditionnelle, qui ne se réglera pas en 10 ans. Mais c'est l'accumulation de tout ça, plus les manipulations.
On va reprendre notre discussion sur la Nouvelle-Calédonie dans le Face à Duhamel avec Roselyne Bachelot et Alain Duhamel, avec un œil quand même sur Matignon, puisqu'on attend une prise de parole, ça a été le Conseil des ministres aujourd'hui, concernant la Nouvelle-Calédonie et peut-être le manque d'anticipation du gouvernement, Roselyne Bachelot.
Oui, c'est-à-dire qu'on imaginait sans doute que le conflit resterait politique, avec des personnes responsables, les élus locaux indépendantistes, qui allaient quand même regarder cela dans un esprit de dialogue. Tout d'un coup, tout a échappé à tout le monde, et là, il y a eu un défaut d'anticipation de l'ensemble des partenaires, pas seulement du gouvernement, mais aussi des élus locaux qui essaient maintenant vainement d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Enfin, il y a quand même un point qui est assez curieux de voir dans les votes à l'Assemblée nationale sur ce projet de loi, de voir que c'est la gauche qui prône le vote des immigrés, qui prône évidemment le vote...
En métropole,
en France. En France, oui. Voilà. Ah oui. Et qui en Nouvelle-Calédonie pense que pour rééquilibrer et donner le pouvoir à une minorité, puisque les Kanaks sont minoritaires, ils représentent à peu près 40% de la population, il faut interdire en quelque sorte à des gens qui sont là depuis après 98, c'est-à-dire depuis plus d'un quart de siècle, on leur interdit de voter. Aux élections provinciales, ils ont le droit de voter. Aux élections nationales.
Était primordial parce que c'est une réforme, c'est une concession qu'on avait faite à l'époque pour justement acheter la paix.
On a prévu toute une série d'étapes. Il y a déjà eu 3 référendums quand même, dont le 3e a eu avec abstention kanak, donc a quand même une valeur relative. Le fond des choses, pour que ce soit bien clair, c'est que tous ceux qui sont depuis 98, n'ont pas le droit de vote local. Ça veut dire 20% du corps électoral qui n'a pas le droit de vote local. Et là, il s'agissait évidemment de le leur rendre, tout en reconnaissant que ceux qui sont là depuis simplement 10 ans ne pourraient pas encore voter.
C'était quand même restrictif. C'est quand même très restrictif. Voilà.
C'est quand même une anomalie démocratique.
Par rapport au suffrage démocratique classique, c'est une anomalie absolue.
C'est une injustice.
L'idée, évidemment, c'est que là, pour l'instant, les Kanaks sont en minorité, en gros 40%. S'il y a ces 20% de plus, ça ne sera pas 20%.
Ça remet 25 000 électeurs dans la machine.
Ceux qui arrivent sont plutôt partisans de rester dans le giron français. Et viennent pour ça, d'ailleurs, quelquefois de très loin. Pour les Kanaks qui se disent c'est notre espérance de pouvoir ou de citoyenneté calédonienne qui s'éloigne, ce qui est vrai. Et puis pour les autres, c'est on a le droit de voter comme tout le monde, et si on est les plus nombreux, on est les plus nombreux. Et c'est une situation là.
Les Kanaks se disent ça y est, le territoire nous échappe, ils appellent ça
la recolonisation. Oui, c'est ça. Bon, mais il faut reconnaître, d'une part,
il y a pas un peu de vrai aussi.
Mais bien sûr qu'il y a un peu de vrai, c'est ce que je vous dis. En fait, il y a deux déficits démocratiques. Il y a le déficit de ceux qui devraient avoir le droit de vote et ne peuvent pas l'exercer localement, quand même 20%. Et puis, il y a les Kanaks qui ont envie de ce qui leur a été promis, c'est-à-dire une forme de citoyenneté originale, avec une spécificité bien marquée. Il y a d'autres anciennes puissances coloniales qui sont arrivées à mettre des systèmes comme ça sur pied, notamment d'ailleurs dans des archipels. Donc ça n'est pas impossible. Disons que ça n'est pas la tradition française.
Tout cela a été fait en ne tenant pas compte de l'évolution. Quand on met cette loi en place en 1999, les gens exclus représentent 7,5% du corps électoral. Ils en représentent 20% maintenant.
Oui, parce qu'ils continuent à arriver des nouveaux immigrés.
Et là, on n'est pas dans un processus de colonisation, parce que d'ailleurs, les gens qui arrivent ne sont pas des Européens. Il y a des Wallisiens, il y a des Philippins, il y a des Chinois, il y a toutes sortes de gens.
Absolument.
Et pour présenter ça comme un processus de recolonisation par la métropole, c'est vraiment se braquer avec les faits.
C'est vrai, mais en même temps, c'est pour les Kanaks, enfin, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, un processus aussi de dépossession de ce qu'on leur a quand même fait miroiter, parce que les accords insistaient beaucoup sur plus que d'une personnalité, une différenciation, et même une forme.
Oui, mais...
Ben oui,
oui, mais c'est...
une
oui, bien
forme
sûr.
De citoyenneté calédonienne. Et là, il y a quand même, espérances contradictoires et qui chacune ont un bon argument.
Mais c'est un en même temps qui est complètement bancal.
Ah ben
parce
oui,
que c'est, on est dans l'aberration démocratique par rapport au reste du territoire, alors que localement, on s'est prononcé pour rester en France, tout en essayant de faire des exceptions.
Vous savez, il y a des en
donc,
même
temps. Ça ne peut que péter, excusez-moi l'expression.
Mais vous savez, il y a des en même temps qui ne marchent pas.
Et alors, ce qu'il y a, c'est que, qu'on craint la colonisation, on est sur un phénomène de recolonisation par des puissances étrangères, on en parlait. On sait très bien que dans cette usine qui a été créée dans la province Nord et qui s'appelle l'usine de Cognambo, on sait très bien... Alors, c'est 3700 emplois sur une population de 50 000 habitants. C'est-à-dire que c'était vraiment destiné à être une sorte de mono-industrie. C'est comme si nous, on avait une usine en France qui emploierait sur un site 6 millions de Françaises. C'est fou. Et là, cette usine, elle a fait, avec l'effondrement du cours des nickels, elle a fait 13,5 milliards de dettes et elle est gérée par les indépendantistes. Et là, qu'est-ce que veulent à 51%? Et c'est un consortium anglo-suisse, Glencore, qui détient les 49% restants et qui veulent absolument mettre la main là-dessus. Donc, on est vraiment dans un jeu géostratégique qui dépasse et de beaucoup les émeutes de rue.
Et la réforme électorale.
Merci Rosine Bachelot, merci Alain Duhamel.